Emmanuel Soupe, bonjour.
Bonjour Didier.
Vous êtes responsable de la gestion actions chez ABN AMRO Investment Solutions. On va parler avec vous de marché et de perspectives sur ces marchés. Bien entendu, on se pose tous la même question après ce qui c'est l'élection aux États-Unis. Est-ce que la donne a changé sur les marchés et de quelle manière?
Alors, la donne a en partie changé, mais il reste tout de même un certain nombre de fondamentaux sur lesquels on peut s'appuyer. D'abord, en ce qui concerne la hausse des taux. Elle avait été légèrement amorcée avant l'élection de M. Trump. Elle a continué ensuite. Là, manifestement, on voit bien que l'on attend aujourd'hui les réactions des banquiers centraux avant de pouvoir définitivement se prononcer sur la continuité d'un mouvement qui a été amorcé. Ce que l'on peut retenir comme idée, c'est que les taux peuvent continuer de monter un peu aux États-Unis, mais qu'il n'y a pas de raison que les taux montent en Europe ou dans le reste du monde, tout simplement parce que l'on ne peut pas dire qu'on soit débordant d'activité. Donc ça, c'est la deuxième partie de notre propos, c'est-à-dire que le marché s'est emballé sur la perspective d'avoir de la croissance supplémentaire générée par un programme de relance important de la part des États-Unis, mais pour l'instant, nous n'avons pas de chiffres, ce sont des perspectives, ce sont des possibilités, et il faudra confirmer cela.
Alors en même temps, on a l'impression que justement sur ce sujet-là, on parle désormais d'inflation, ou on reparle d'inflation. Ça fait quand même plusieurs années qu'on a mis ce sujet de côté. Et là, on dit, est-ce qu'il ne va pas y avoir un retour de l'inflation par justement les mesures, potentielles de Donald Trump?
C'est possible, mais il faut se souvenir que l'on a tout de même des effets déflationnistes qui sont importants, liés notamment à l'amélioration de la productivité des entreprises, qui reste forte. Il y a toujours de la part des entreprises des programmes de réduction de coûts qui sont efficaces. Donc par conséquent, même s'il y a inflation, elle pourrait être raisonnablement limitée. Et la seule inflation qu'il va falloir regarder de manière importante, ce n'est pas celle générée par les matières premières, mais surtout celle qui pourrait provenir d'une hausse des salaires.
Donc là, effectivement, avec un vrai changement, et du coup, peut-être pour la Banque centrale américaine, bah, finalement, ces fameux objectifs qui seraient réunis avec Donald Trump, ce qui ne serait pas le moindre des paradoxes.
Oui, mais je crois qu'il ne faut pas aller plus vite que la musique, selon l'expression. Un grand pas a été franchi depuis l'élection de Donald Trump. Les marchés ont à la fois salué et modifié clairement les orientations sectorielles. On a bien vu que il y a eu de la défiance ou des prises de profit vis-à-vis des valeurs dites de croissance, tandis que l'on reprenait des valeurs dites value et des valeurs financières. Bon, là, on constate que l'on commence à se calmer un peu parce que le mouvement a été important, qu'il y a des prises de bénéfices, et on retrouve à ce moment-là la nécessité de vérifier la qualité des fondamentaux, c'est-à-dire quelle activité aura-t-on demain et quelle marge et quel profit pourra-t-on constater à partir de cette activité.
Donc là, il y a eu, on va dire, des arbitrages rapidement faits sur des secteurs, sur des potentiellement qui pourraient effectivement progresser. Et puis ensuite, il y a ce que vous dites, c'est-à-dire on va regarder un peu plus près que juste les mouvements de marché.
Exactement. Si on regarde par exemple le secteur de la pharmacie, on s'aperçoit que effectivement, il semble y avoir une certaine inflexion, une certaine pondération qui soit mise dans le discours de M. Trump par rapport aux propos de campagne. Et du côté des infrastructures, du programme d'infrastructure, certes, on peut s'attendre à quelque chose d'important, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas mettre de chiffres sur ces propos. Donc, par conséquent, de vouloir anticiper au-delà de ce qui est raisonnable serait prendre un risque par rapport à la nécessité d'avoir des placements qui soient raisonnablement construits.
Alors on voit aussi que, enfin on imagine aussi qu'il pourrait y avoir des réactions de la Chine, d'autres pays, et que
Absolument.
donc le commerce mondial, ou en tout cas l'activité de la croissance économique mondiale, pourrait peut-être être affectée si on allait au bout de ces mesures.
Oui, parce que, indépendamment du bras de fer politique et monétaire que l'on pourrait observer entre, par exemple, les USA et la Chine, on s'aperçoit que, d'une certaine façon, l'élection de M. Trump rebat les cartes vers un côté plus domestique donné à l'activité par rapport à la manière dont on pouvait percevoir les choses. Une des grandes leçons de ces dernières années, c'est que la globalisation dont on parlait autrefois est aujourd'hui complètement éteinte. Il y a des disparités dans les comportements sectoriels, mais il y a aussi des disparités dans les comportements entre les différentes économies. Donc, par conséquent, on ne peut pas avoir un comportement homogène, généraliste et simpliste par rapport à la complexité des mouvements économiques tels qu'elles se présentent aujourd'hui.
Oui, alors on a vu de l'impact avec la hausse du dollar sur les marchés émergents, et là pareil, désormais quand on parle de marché émergent, on va parler de tel ou tel pays, puis des marchés en général. Tous ne sont pas affectés de la même manière, mais on a vu un effet.
Oui, effectivement, la possibilité d'avoir, par exemple, la mise en place de droits de douane importants peut susciter un certain nombre d'inquiétudes vis-à-vis de l'activité sur les pays émergents, mais est-ce qu'on ne peut pas à ce moment-là concevoir que si les pays émergents étaient durablement touchés, il y ait la volonté de fonctionner par zone économique, par exemple sur l'Asie avec la Chine et une grande zone asiatique dont la Chine serait le cœur. On va se poser des questions vis-à-vis de l'Amérique latine, vis-à-vis du Mexique, etc. Je crois qu'il est encore trop tôt. On a fait une partie du mouvement. Il ne nous paraît pas raisonnable d'aller au-delà des premières estimations qui peuvent être formulées.
Pour l'investisseur, ce n'est pas évident, parce qu'on voit que maintenant les échéances politiques ont de l'impact, mais on pourrait revenir à Donald Trump. Ce n'était pas ce qui était prévu par la plupart des investisseurs, ce qui s'est passé. Il y a d'autres échéances à venir. Du coup, est-ce qu'il faut être peut-être plus tactique, puisqu'il va y avoir d'autres échéances dans les prochains mois en Europe, par exemple?
Déjà, la première réflexion, c'est que, en ce qui nous concerne, nous avions neutralisé, en termes de style, entre la partie value et puis la partie croissance. Donc, on avait effectivement bien fait le mouvement qui était nécessaire, de façon à constater l'incertitude liée à l'élection. Mais là où nous avons été surpris, c'est sur les mouvements qui se sont opérés à l'intérieur des différents secteurs. Parce que il est évident que, quand bien même nous avions neutralisé l'aspect value growth, nous avions tout de même orienté notre sélection des titres sur ce qui nous apparaissait le plus beau, le plus intéressant, le plus durable, etc., etc. Et là, on s'aperçoit qu'il y a eu un mouvement de la part du marché, des marchés, ces derniers jours, qui n'a pas récompensé, entre guillemets, les valeurs de qualité, mais qui a permis un redressement des valeurs les plus faibles ou les plus délaissées jusqu'à présent. Donc nous avons effectivement été impactés par cela, mais ce dont on s'aperçoit depuis 2-3 jours, c'est que le marché retrouve une certaine raison dans sa manière d'évaluer les sociétés les unes par rapport aux autres, et par ailleurs, les reculs de cours que l'on a constatés sur les plus belles valeurs peuvent aussi constituer des opportunités pour qui est investi sur le moyen long terme.
On reste favorable aux actions européennes et actions américaines quand on voit le Dow Jones à 19 000.
Nous restons favorables aux deux. Le risque principal serait une remontée brutale sur les taux d'intérêt qui nous ferait échapper ce que l'on appelle une certaine forme de tranquillité par rapport à cette hausse des taux. La grande différence entre la situation aujourd'hui et celle que l'on a pu constater, par exemple, avec la crise de 87 ou la crise de 93, c'est que, à l'époque, les taux ont monté sensiblement et rapidement, mais il n'y avait pas d'action concertée des banques centrales en face. Là, aujourd'hui, on a tout de même un certain nombre de possibilités de la part des banquiers centraux pour essayer de mieux maîtriser les choses. Quand bien même il reste aussi une dernière inquiétude qui est celle liée à la politique, on va avoir les élections italiennes, on verra bien ce que ça a donné. On avance petit à petit, on s'aperçoit qu'il est nécessaire à la fois de prendre en compte tous ces risques qui se présentent les uns derrière les autres, par exemple les risques politiques, tous ces risques qui se présentent vis-à-vis de l'activité économique et de la capacité des banquiers centraux à agir, et tenir compte de la solidité intrinsèque des chefs d'entreprise pour pouvoir tenir leur guidance, quand bien même ils reconnaissent tous que l'activité est relativement molle tranquille sur le plan, si je peux être positif, tranquille sur le plan de la progression.
Merci Emmanuel Soupre.